Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, que Dieu nous bénisse ce matin et j'aimerais aborder un sujet qui nous concerne tous parce qu'on ne peut pas y échapper. C'est la question du temps. Je ne vais pas faire de la météorologie, mais je parle du temps. Et la Bible en parle savamment parce que je pense que c'est un sujet de réflexion. Nous sommes renfermés dans le temps. Et je pense que nous devons considérer que le temps n'est pas notre ennemi, il peut être notre ami. Et ça, c'est important de le souligner et de le dire. Dans Job, nous allons lire un texte. Il est très clair et très simple. Job, chapitre 7, verset 7. Et nous allons décliner justement ce sujet au fur et à mesure que nous allons tourner les pages de notre Bible. Alors, Job, chapitre 7, verset 7, il est dit ceci, c'est une prière en quelque sorte, hein. Souviens-toi, un homme parle à Dieu, Job parle à Dieu, souviens-toi que ma vie est un souffle. Eh oui. Ça se décline de différentes manières, puisque dans l'Écriture sainte, il y a énormément de références où la vie humaine est considérée comme un souffle, un vent. Il passe, il disparaît, insaisissable. Également comme une fleur qui éclot et qui se fane au bout d'un certain temps. Et puis, notre vie, c'est aussi un petit peu cette signification que nous pouvons lui donner. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Je voudrais rappeler à tout un chacun, et nous en sommes tout à fait convaincus, ce qu'est la notion du temps. Hein, ça va nous donner une base de réflexion, et nous le verrons avec des textes bibliques. D'ailleurs, le mot « temps », en latin, c'est tout simplement « tempus ». Voilà, donc nous, il n'y a pas un grand changement dans notre langue, les langues latines. Et en grec, ça veut dire quelque chose « chronos », avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir, hein, « chronos ». Ou tempus. Le temps rend compte et nous donne la conscience de la durée, de la mesure et du changement. Eh oui, c'est pas quelque chose de fixe, quelque chose qui passe, qui va, qui revient, qui disparaît, etc. Donc, c'est une conscience d'être, en quelque sorte. C'est une perception humaine. Je ne sais pas si les animaux ou les végétaux ont une autre notion. Enfin, je ne m'hasarderai pas à le dire, mais c'est une perception humaine que le temps est le temps de la nature ou dans la nature, de l'histoire, des événements, à la fois successifs et dans la continuité. Je voudrais quand même, notre Bible, il y a quelque chose que j'aimerais compléter dans la lecture. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, et vous le savez tous, mais peut-être que pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec la Bible, j'aimerais relire ce passage. C'est justement toutes ces notions de temps qui nous sont rappelées dans la vie des hommes. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, et voilà ce que nous lisons. Ecclésiaste 3, verset 1er. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui était planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » Voilà. Alors si vous voulez, penser, réfléchir sur le sujet, vous avez matière à méditer ce passage. J'aimerais donner simplement, pour avancer aussi dans notre réflexion, quelques exemples. Il y a le temps et les temps dans la musique. Eh oui, faut les respecter, hein, pour que ça soit harmonieux. Il y a également le temps météorologique dont nous sommes si accros les uns et les autres, parce que c'est vrai que de plus en plus on suit ces informations. Elles sont nécessaires dans certaines professions, mais elles sont nécessaires pour tout le monde, donc le temps météorologique. Et puis il y a le temps cosmique, le temps astronomique, c'est l'espace. Et à travers cela, eh bien, dans ce temps, il y a, nous pourrions dire, dans ce développement, ce qui peut être compté en fractions de seconde et ce qui peut être compté, déterminé en années-lumière. Alors, c'est quelque chose de certainement très compliqué. Et j'ai trouvé un proverbe, non pas un proverbe biblique, mais il y a du bon sens dans celui-ci. Il est dit que le temps est une lime. Vous savez ce que c'est, hein, naturellement, qui travaille sans bruit. Ça vient, ça passe, mais l'œuvre est faite. Et le temps use l'erreur et il polie la vérité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Moi, j'aime bien les proverbes. Je suis toujours à regarder parce que même dans mes prédications, je trouve que c'est quelque chose qui nourrit et qui donne une belle image du propos que nous voulons finalement engager. La composition du temps, eh bien, c'est le passé. C'est le présent, c'est l'avenir, c'est le futur. Alors, ça c'est encore beaucoup plus loin. Et dans notre langage, eh bien, le passé c'est j'étais, le présent je suis, le futur c'est je serai, ou alors, ça c'est l'être, hein, naturellement, en ce qui concerne l'avoir, ce que je possède, j'avais, j'ai, j'aurai. Tout ça, ça fait partie de... C'est un cours, hein. Vous allez... On va retourner à l'école ce matin, si vous voulez. Mais toujours est-il que... La forme du temps, la mesure du temps, nos expressions, finalement. On parle d'hier, on parle d'aujourd'hui, on parle de demain, il était une fois, etc., etc. Tout ça, c'est le temps. Et c'est très intéressant de prendre toute la mesure de ces choses, parce que ça fait partie de notre vie, nous les hommes, en quelque sorte. Alors, on va maintenant aller un petit peu plus loin, on va poser notre réflexion sur les valeurs du temps. Quelle valeur a le temps pour nous ? Pour certains, ben, il le dit la bite, ça n'a pas de valeur. Enfin, ils ne sont pas conscients que le temps a une valeur. Quand on est jeune, hein, quelquefois, on dit, il consomme sa vie, voilà, il a la chandelle, il brûle la chandelle par les deux bouts. Hein, donc, il y a une question de valeur. Et dans Chronique, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y avait parmi les compagnons du roi David, eh bien là, et cela nous est dit d'une manière très très significative, il nous est dit que parmi les fils d'Issachar, Issachar c'est une tribu d'Israël naturellement, il nous est dit qu'il savait discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Ils avaient, figurez-vous, ils avaient la valeur, ils avaient la perspicacité, ils avaient le discernement des temps pour comprendre eh bien, ce que Israël devait faire. En quelque sorte, ils avaient l'intelligence du temps. C'est une intelligence le temps. Parce que vous allez voir dans les déclinaisons que nous allons donner, eh bien, il y a mille et une façons, finalement, de vivre le temps. Alors, on peut le vivre heureux, on peut le vivre malheureux. C'est vrai que quand nous sommes dans des périodes de bonheur, où il n'y a pas de sujet particulier de nous désespérer, le temps passe vite, hein, c'est vrai. Quand on est malade, c'est autre chose, c'est long, hein. Quand vous êtes à regarder le plafond, le jour, la nuit, vous ne le voyez pas, mais en tous les cas, vous ne dormez pas. Et ça paraît infini le temps quand nous sommes dans cette situation de souffrance. Donc il a la valeur, elle se mesure par la perspicacité que nous pouvons avoir. Le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose, le moment, l'instant, ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc le discernement. La valeur du temps, c'est important. Ça se compte dans les années, dans les jours, dans les minutes, les secondes. Et c'est une conscience d'être. Je suis. Maintenant. Chacun d'entre nous, nous pouvons finalement, eh bien là, nous le conjuguons au présent. Je suis. Dans 2 heures, ça sera autre chose. Vous aurez autre chose. Vous vibrez autre chose. Vous serez forcément ailleurs. Donc, une conscience d'être, c'est-à-dire de notre vécu. Et la parole de Dieu la Bible, nous demande, eh bien, de prendre toute la mesure dans la foi en Dieu, de ce que nous pouvons en retirer de profitable et de bénéfique, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. On va prendre du bon temps. Oui, non, c'est pas... D'accord. Le vécu, c'est ça ce que je veux dire. Donc, la valeur du temps, je dis en quelques mots. Je voudrais vous parler maintenant du temps qui passe. Eh oui, parce que c'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose qui, finalement, nous n'avons aucune maîtrise. Je ne peux pas dire que finalement, eh bien, je vais ajouter une heure de plus à ce jour. C'est pas possible. C'est pas moi. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis emporté. Je suis dedans. C'est pas possible. La vieillesse, et ça commence par la jeunesse, mais la vieillesse, ça passe vite. Quand nous avions 20 ans, on disait, oh là là, on voyait des gens de 50 ans, on disait, qu'est-ce qu'ils sont vieux? Oui. Et puis on se disait, bon, on a le temps, on a le temps. Et aujourd'hui, eh ben moi je dis plus la même chose. Je regrette pas la jeunesse, parce qu'il y a ces problèmes, il y a ces difficultés. Mais on se dit, mais quand on regarde en arrière, qu'on a des enfants, des petits-enfants, on se dit, mais là, dis donc, ça va vite, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que 50 ans? Qu'est-ce que c'est que 60 ans? Ça passe vite, les décennies qui s'enfilent les unes derrière les autres. Encore un proverbe, si vous voulez. Le temps est comme une rivière. Imaginez. Tu ne peux pas toucher la même eau deux fois, car le flux qui est passé ne reviendra jamais. C'est beau, hein? Oh ouais, c'est formidable. Essayez avec la Loire, là, qui arrive dans l'estuaire, vous allez voir. Vous touchez, mais c'est fini, hein? Et vous allez retrouver peut-être ce flux à des milliers de kilomètres, dans la mer des Sargasses, là, ou je ne sais où. Eh oui, c'est quelque chose. Mais j'insiste avec ce genre de pensée pour bien nous donner la valeur et la notion du temps qui passe. Alors, il faut profiter de chaque instant de la vie. Ouais. Il y a des supporters, là. Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas, selon l'adage biblique, « mangeons et buvons parce que demain nous mourrons ». Moi, je voudrais vous dire « mangeons et buvons car demain nous vivrons ». Et nous vivrons. Et nous vivrons éternellement. Ça, c'est véritablement la conviction de l'enfant de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a changé notre vie. Parce que sa parole nous donne des références et nous donne des convictions, des certitudes à l'intérieur de nous-mêmes à travers la personne de Jésus et sa parole et ses promesses, que quelque part, la vie, la mort, pour un chrétien, mais c'est une destination, c'est une autre vie après celle-ci. Et là où il n'y aura plus, nous le disions et nous l'avons lu dans le livre de la Pleine, il n'y aura plus d'armes, de drames, de guerres, de sang, de toutes ces méchancetés, parce que il y a les deux. Nous sommes non pas dans le blanc ou le noir dans cette vie, mais nous sommes dans le gris. C'est-à-dire que tout est confondu, le bien, le mal, la vérité, l'erreur et toutes sortes de choses. Alors il faut profiter, et la Bible et le livre des Proverbes particulièrement nous dit « profite de la vie ». Alors, faut savoir comment on en profite, et est-ce que nous voulons la quantité ou la qualité? Sur quoi nous allons baser notre vie? Sur quoi nous allons régler finalement nos actions, notre pensée, etc. Parce que c'est fugace tout ça. Oui, on a eu des bons moments dans la vie les uns et les autres, non? Oui, souvenez-vous. Allez, vous allez rentrer chez vous, vous allez ouvrir vos albums de photos et vous allez regarder. Ah là 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 là, voilà, la fugacité. Alors, la valeur du temps, le temps qui passe, et ce qui est hors du temps. Et là, c'est une perception qui n'est pas encore réalisée, au-delà de notre perception. Ouais. Hors du temps, et c'est vraiment le thème de la Bible, c'est l'éternité. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle. Il n'aura pas, il a maintenant. Ça, c'est une conviction, il a la vie éternelle. Nous sommes déjà dans cette dimension où nous préparons cette éternité. C'est une école, la vie. On apprend beaucoup de choses. On rate beaucoup de choses aussi, ça c'est certain. Mais Dieu est patient, on l'a chanté, on l'a vu ce matin. Il est toujours là, comme un Père céleste, un bon Père, pour nous dire, eh bien, tu as chuté, tu as tombé, mais si tu veux me donner ta main, je te relève et tu repars. Un enfant qui marche, qui commence à marcher. Les parents ne se résignent pas en disant, bah, tu n'arrives pas à marcher, tu vas rester comme ça. Pas du tout. Hein? Mais ça se fait naturellement, tout ça. Et si je vous parlais du bon vieux temps? C'est une expression, hein? Ah ouais! Hein? Les années folles, vous avez connu? Hein? La belle époque, vous avez connu? Oui, le bon vieux temps. Qui fait pleurer certains, parce qu'ils ne peuvent pas se décrocher. Ils pleurent, ils se lamentent en disant, mais, ah là là! Qu'est-ce que c'était bien à cette époque, hein? Eh oui, mais, faut pas vivre dans les regrets, dans les remords, hein? Les remords, c'est parce que peut-être nous avons fait des fautes. Mais les remords, eh bien, on doit être guéri de nos remords et puis de nos regrets. C'est fini. Qui dit que le temps d'aujourd'hui, Que le temps d'hier était meilleur que celui d'aujourd'hui, c'est encore aussi un proverbe biblique, ça. Hein. Voilà, la nostalgie. Il y a des gens qui ne vivent que sur Radio Nostalgie. Voilà, c'est bien, ça rappelle la jeunesse, ça rappelle toute cette... Non, on vit aujourd'hui. Alors, il y a à apprendre et à manger, naturellement, mais bon, on vit avec son temps, en tous les cas. Et le temps perdu, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça vous arrive de perdre votre temps? Oh oui, certainement. Moi, ça m'arrive de perdre mon temps. Hein. Parce que dans la vie, il y a des contretemps. On pensait faire ceci aujourd'hui ou hier, on avait prévu. Puis finalement, eh bien, il y a eu des empêchements, il y a eu des inconvénients, et on se dit, ben voilà, c'est des contretemps. Et on en ressort un peu fâché. On se dit, mais j'avais tellement préparé les choses. J'avais préparé mon voyage, j'avais préparé ceci et cela. Ça m'a donné de rêver et d'espérer. Et puis finalement, eh bien, on me dit que c'est reporté. Vous savez, c'est quelquefois assez décevant tout ça. Et on se demande si quelquefois l'horloge de Dieu est la même que la nôtre. On se dit, mais que Dieu est souvent en retard. Non. C'est nous parce que nous trépignons, parce que nous sommes impatients, mais l'horloge de Dieu, elle est toujours au bon moment. Ah oui? Oui. Ça ne bouge pas, hein. Il n'y a pas de changement avec les saisons, avec le Seigneur. C'est toujours la même chose. Pour ceux qui craignent de se réveiller ou qui ne se réveillent pas, hein, n'ayez pas peur. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, c'est toujours à l'heure. Hein. Savoir attendre le retour du temps lorsque nous l'avons passé. Il y a eu un contre-temps. Il y a des gens qui se désespèrent en disant, bah oui, mais j'espérais que ça soit aujourd'hui, dans ce mois-ci, dans cette année, et puis finalement, alors je baisse les bras. Non, il va y avoir une compensation que nous devons mettre en œuvre. C'est notre foi. En disant, Seigneur, si ça n'a pas eu lieu, si je n'ai pas eu de succès, si ça n'est pas arrivé, cet événement que j'avais tellement préparé et souhaité de tout mon cœur, mais c'est que finalement, et c'était peut-être pas le bon temps, mais maintenant il va y avoir quelque chose de meilleur et tu vas m'apprendre encore une grande leçon. C'est ça l'école de la foi, hein. Et ne pas se désespérer et baisser les bras, hein, en disant, bah oui, mais bon, c'est fini, c'est terminé. Si vous vous dites que c'est fini, ça sera fini. Mais, une chose qui est certaine, et on le voit dans des belles paraboles que nous avons dans l'Évangile, où quand l'homme dit c'est fini, Dieu ou Jésus dit, mais c'est pas fini, ça commence. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pourtant, ce sont des choses qui sont tellement importantes. Oui, le retour du temps, saisir les occasions. Quelquefois, on a vu certains objets dans un magasin, ça nous a plu, on s'est dit, on va revenir demain. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé avant vous. Ah, c'est vexant, hein? Mesdames, une belle robe que vous aviez... Ah, vous la pensiez qu'elle était déjà à vous. C'est comme si vous l'aviez payée. Vous arrivez avec votre carnet de chèque, mais il n'y a plus la robe. C'est dommage, hein? Bon, vous achetez un pantalon à la place, mais bon, c'est pas... les occasions à saisir. Il y a des temps où Dieu nous met en circonstance, où il y a quelque chose à prendre, et c'est vraiment le bon moment. Faut saisir, faut prendre à ce moment-là. Il y a un temps pour jeter. On l'a lu, hein? Un temps pour ramasser et un temps pour jeter. Oui, un temps pour jeter. Et si je vous parle de l'utile et de l'inutile dans nos vies, hein, il y en a des choses qui sont utiles, mais il y a bien des choses qui encombrent, qui sont finalement inutiles. Et à ce moment-là, c'est un dilemme de choix. C'est une sagesse, en quelque sorte, à acquérir, de dire, eh bien voilà, il y a des fois, nous avons à faire le point dans notre existence, parce que elles sont encombrées, on va en parler d'ici quelques temps, d'ici quelques instants là. Mais qu'est-ce que je choisis entre ceci ou entre cela? Qu'est-ce qui est le plus valable? Qu'est-ce qui est le plus durable? Qu'est-ce qui va m'apporter le meilleur bénéfice? Et on est vraiment embarrassé. Et il y a des gens qui sont indécis entre deux choses. Il y a même des chrétiens qui sont indécis en disant mais qu'est-ce que je fais? Alors faut pas attendre que le ciel nous tombe sur la tête pour décider, hein? Hein? Dans la précipitation et dans la crainte et dans la peur, non? L'utile, l'inutile, eh bien, il y a quelqu'un qui va nous aider si nous le prions, nous lui demandons, Seigneur, aide-moi à bien choisir. Aide-moi à bien compter mes jours. Le psaume 90, si vous vous en rappelez. Hein. Et de ne pas laisser passer les opportunités que Dieu met devant nous. Oui, il y a des choses, il y a des grands personnages dans la Bible. Hein. Moi, je pense à Moïse, je pense à Joseph, hein, ou à David, hein, qui ont été des hommes qui avaient cette perspicacité, l'intelligence du temps, et ils ont choisi au bon moment. Ils ont quelquefois raté aussi des occasions, ça c'est certain, hein, mais bon, en tous les cas, les choix. C'est pas facile de faire un choix. Quelquefois, on est bousculé pour faire un choix. Hein, on est, les gens qui sont derrière nous, qui sont, alors tu te décides ou quoi? Ça vous fait rire parce que ça vous fait sourire, excusez-moi, parce que quelquefois on... c'est comme ça la vie, hein, c'est comme ça, tout simplement. Le temps encombrait. Vous savez que jusqu'ici, il n'y a pas eu de changement, enfin, je suis pas au courant, mais normalement une journée c'est 24 heures, d'accord? Et quelquefois ils disent, ah, s'il y avait une heure de plus. Bah, ça pourrait faire un drôle de décalage dans l'histoire du monde, hein. Non, c'est 24 heures. Une heure c'est 60 minutes. 60 minutes c'est 60 secondes. Non? Au cas où vous l'auriez oublié. Mais on a tellement de choses. On a la vie familiale, on a la vie professionnelle, on a les enfants, on a tellement de choses. Et quelquefois, on nous soupirons en disant « mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, les journées ne sont pas assez longues ». Eh oui, alors on prend sur peut-être notre équilibre de vie, notre le temps de nous nourrir, le temps de nous détendre, le temps de finalement de nous ressourcer, hein, le temps encombré. C'est comme si notre vie et nos jours étaient comme dans des cagibis où on a tout entassé et on ne sait plus où retrouver les choses, hein. Tellement il y a de choses, tellement il y a d'encombrements. Alors il faut savoir trier. On parlait d'utile et d'inutile. Et il y a des choses où il faut trancher. C'est toujours un dilemme quand on a une maison, vous savez, vous avez une maison, et puis quand on a une maison, un grand garage, un grand grenier, une grande cave, je le garde, ça va me servir. Voilà, une route bicyclette, il y a ceci, il y a cela, et puis au bout d'un certain temps, il y a madame qui vient vous voir en disant, dis donc, peut-être que tu fasses le ménage parce qu'on peut plus rentrer nulle part. Hein. Il y en a même jusque dans la salle à manger. C'est pas comme ça chez vous, hein, j'espère. Voilà. Mais savoir trier. Seigneur, aide-moi à faire ce qu'il faut faire, à trier. Et c'est une maîtrise de soi. Oui, de dire, eh bien voilà, ceci, ça reste là. Parce que il faut résister à la tentation de toujours accumuler. Et qu'est-ce qu'on accumule des choses dans notre existence? Pouah! C'est pas possible, hein, cela. Hein. Le temps des rêves. Ah, mesdemoiselles. Mais il y a des messieurs aussi qui rêvent. Hein. Puis c'est des beaux planeurs. Hein. Oui, le temps des rêves. Ah, ça, c'est quelque chose. Le rêve nous fait transcendre le temps, en quelque sorte. C'est agréable de rêver, hein. Je parle pas du cauchemar, hein. Parce que quelquefois, du rêve, ça passe au cauchemar. Mais toujours est-il, le temps des rêves, c'est l'illusion, tout simplement, du temps. Et à un moment donné, il faut sortir des rêves pour rentrer dans la réalité. Et quelquefois, c'est assez brutal. Parce qu'on peut pas être des rêveurs continuellement. C'est agréable, c'est doux, c'est confortable quelquefois. Mais il y a un temps de repos. Dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une société d'encombrement, une société de stress, une société où il y a tant de choses, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout vivre. Naturellement, on peut toujours... Voilà, c'est difficile tout ça, le temps du repos. Eh bien, ça nous fait toucher, le temps du repos, ça nous fait toucher notre fragilité humaine. C'est-à-dire que, eh bien, quand on pousse un peu la mécanique, excusez-moi l'expression, un peu trop loin, alors à ce moment-là, le repos va devenir nécessaire parce que c'est un repos de santé. Et tellement important. Ça arrive, hein, ça nous arrive, ça m'arrive moi aussi, que quelquefois on est tellement emporté que Dieu nous dit, ben dis donc, faudrait peut-être que quand même... que tu t'arrêtes. Alors moi, j'ai pensé depuis pas mal de temps que je pourrais prendre mes dimanches. Mais vous avez toujours refusé. Pour me reposer. Voilà. Mais je vais peut-être monter un syndicat de pasteurs. Voilà. National. Hein, on va manifester. Alors, le temps du repos nous fait toucher notre fragilité. Attention, mes frères et sœurs. N'en faites pas trop. Je vous le dis, hein, c'est un conseil, c'est sérieux. Faites ce que vous avez à faire. Mais n'en faites pas trop parce que on est toujours confronté avec notre ennemi qui est le perfectionnisme. Ah ouais, voilà. Hein? Il y a des choses que nous faisons, parce que nous nous donnons des règles à nous-mêmes. Mais ça tue. Alors il faut faire ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait finalement, eh bien là, quelque chose qui soit bien ordonné. C'est normal, c'est un équilibre de vie et tout le monde en bénéficiera. Mais si vous faites le ménage toutes les heures en disant c'est pas encore assez propre, j'ai vu encore un petit grain de poussière ici. Alors là, vous allez devenir esclave, hein, c'est pas possible. Je vois qu'il y en a certaines qui sourient, je ne veux pas trop insister, mais c'est vrai, le perfectionniste est un ennemi. De vouloir trop bien faire et qui fait trop, qui veut faire mieux, eh bien, quelquefois finit par faire mal. Hein. Voilà. Parce que nous avons besoin de nos forces, nous avons besoin de nous reposer, tant sur le plan physique que le plan moral et psychologique. Et puis, la Bible nous parle d'un temps racheté. un temps à racheter dans le livre de Paul aux Éphésiens. Il est dit, comme des sages, c'est pas pour rien que ça commence comme ça, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors c'était déjà des jours mauvais du temps de l'apôtre Paul, mais combien, 2000 ans après, nous pouvons dire que les temps sont mauvais? Ouais, le temps nous tue. Hein. Et il y a des gens qui disent, moi je tue le temps. C'est pas vrai. C'est le temps qui les tue, hein, quelque part. Hein. Alors, les jours sont mauvais. Ça, c'est la sagesse chrétienne, en quelque sorte. Hein. Un peu plus loin, il nous est dit, je crois que c'est Paul aussi qui est l'auteur de cette parole, ne soyez pas inconsidérés, mais considérez les temps dans lesquels vous vivez. Et c'est vrai que si on se laisse, comme des moutons de panurge, mettre la pression, suivre le conformisme, tout ce qui est fashion et tout ce qui est à la mode, etc., etc., ben, on peut pas suivre, hein. On peut pas suivre, c'est pas possible. Ne soyez pas inconsidérés. Voyez le temps dans lequel nous sommes, nous faisons des choses et il y a d'autres que nous ne pourrons pas faire. Hein. Et c'est un diagnostic qui est, c'est un état de notre temps, de notre monde. Il faut faire attention parce que notre vie vaut plus que le suivi aveugle de ceci et cela. On ne fera pas tout de toute façon. Alors ça se manifeste par l'enthousiasme parce qu'on vient de découvrir quelque chose de formidable et d'extraordinaire, ou quelquefois ça se finit par la tristesse. L'enthousiasme et la tristesse. Tant des indécisions, des hésitations, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est savoir quoi faire, c'est savoir quoi penser, c'est savoir tout simplement, eh bien là, être dans cette dimension où Dieu veut nous enseigner ce qu'est la valeur du temps et de l'utiliser, et de ne pas rester dans le doute indéfini. Je le dis, le doute, c'est à la fois négatif et c'est aussi positif. Si je domine mon doute, alors à ce moment-là, je vais être victorieux sur le doute. Et la foi va s'épanouir, elle va s'éclore. Parce que c'est entre l'incrédulité, la foi, et au milieu, il y a le doute. Qu'est-ce que je fais? Hein, c'est l'indécision, et c'est vraiment des situations qui sont difficiles à vivre. On n'est pas très heureux quand on est dans le doute. Hein. Un doute qui perdure pendant des jours, pendant des heures, etc., etc., c'est affreux. Il y a des doutes qui sont tragiques. Hein. Moi, je pense à ces parents qui attendent le retour de leur petite fille qui a été enlevée. Ou c'est horrible. Ça, c'est des cas extrêmes. Mais quand même, hein, et le doute, est-ce que je vais être embauché? Est-ce que je vais être débauché? Enfin, est-ce que... Voilà, ça fait partie. Mais je voudrais remettre les choses. C'est-à-dire que le doute, si je le vainc, et à ce moment-là, je m'appuie sur la parole de Dieu et je demande à Dieu qu'il m'aide, il va m'aider. Et là, je pourrai aller de plus en plus. Je vais trouver un développement à ma foi. Par contre, si je cède au doute et que là, je vais tomber dans le négativisme, dans toutes sortes de choses, alors à ce moment-là, je vais être profondément malheureux. Et je vais tomber, finalement. Hein, je vais être dans le trou. Hein. Alors, il y a un proverbe qui dit, en tant qu'on ne sait pas, dans le doute, abstiens-toi. Hein. Vaut mieux attendre. Mais enfin, en tous les cas, moi, je dirais pour les chrétiens, ne t'abstiens pas éternellement, mais au moins, fais foi au Seigneur, parce que lui, il va te donner des convictions. Le temps des priorités maintenant. Ah oui, c'est comme dans le code de la route, hein. Faut mieux les respecter, parce qu'autrement, si on grille certaines choses... Le temps des priorités, c'est une remise en ordre, quelquefois dans le désordre, une remise en cause de nous-mêmes. Ouais, de dire, voilà, il y a trop de choses, on parlait de l'encombrement tout à l'heure, ben ça revient au même. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, examinez toutes choses, c'est Paul qui le dit, hein. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et... rejeter ce qui est mal. C'est pas évident, ça. Hein? Parce que qu'est-ce qui est bien, bon, qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est mal. Quelquefois, dans la confusion de notre monde d'aujourd'hui, on ne sait plus tellement où sont les frontières. C'est vrai. Mais l'apôtre le dit, hein? Retenez ce qui est bon. Voilà. Maintenant, prévoir le temps. Ah oui, nous avons tous des agendas. Vous avez acheté celui de 2018? Ouais. Profitez-en, parce que là, ils sont bradés. Hein? Voilà. Il n'y en aura plus bientôt. Hein. Donc, prévoir le temps. Le bon usage de ma vie. Le bon usage du temps qui m'est imparti. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis à cette place. Je suis dans cette fonction. Je suis là où Dieu m'a placé dans une évolution de mes jours et de mes années. Et voilà, je suis là, à la place où je dois être. Et je crois que, quelque part, les prévisions, elles sont déjà faites pour moi. Dans la mesure où je veux être, je demande à Dieu qu'il me donne d'obéir et de discerner ce qu'il veut de meilleur, le bon usage finalement. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, fais tout ce que ta main trouve, alors fais-le. Alors c'est vrai que on n'est pas là paresseux, on n'est pas là à se poser mille et une questions en disant ben voilà j'attends que ça vienne. Moi j'ai entendu quelquefois des chrétiens qui me disent ben écoute ils sont super spirituels parce que bon quelquefois c'est assez étonnant en disant voilà je cherche du travail mais j'attends qu'on vienne me chercher. Eh ben si vous faites comme ça vous pouvez attendre longtemps. Eh oui, ils attendent un signe du ciel, ils attendent une manifestation, voilà. Mais ça peut prévoir le temps, c'est autre chose. À temps plein maintenant, dont le contraire, c'est vraiment faire les choses à moitié. Eh oui, on n'est pas appelé à faire les choses à moitié, on est appelé à les faire. Et on les fait ou on les fait pas, mais si on les fait, on les fait bien. Et on les fait jusqu'au bout. C'est ce qui s'appelle dans notre langage chrétien la consécration. Eh oui, on va pas donner le moindre, on va donner le meilleur. Et dans le bon ordre, et on ne fait pas n'importe comment non plus. On a parlé de gagner du temps, mais on a parlé de perdre du temps, mais moi je voudrais vous parler de gagner du temps. Vous en avez gagné du temps? Tout le monde, c'est vrai, le dit, hein. Je vais gagner du temps. Je vais passer au feu rouge. Vous avez gagné un temps à l'hôpital. Eh oui, non mais c'est un petit peu caustique, hein. Enfin plus, c'est un petit peu coquin là, ce que je suis en train de dire, mais gagner du temps, vite fait, mais toujours bien fait. Alors attention, faut être équilibriste, hein, faut être bon, hein, et bien rattraper le trapèze qui arrive en face, hein, parce qu'autrement, c'est pas toujours le temps de la patience maintenant. J'ai bientôt fini, hein, si vous impatientez. Hein. Le temps de la patience. Ça implique une maîtrise, on l'a entendu parler tout à l'heure là dans la présentation des chants. Ça implique la maîtrise de soi. Ouais. Il y a une expression qui dit « patient comme un explosif ». Imaginez-vous ce que ça peut donner. Hein. Ça n'attend pas. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a des situations, eh bien là, il faut attendre. Et le livre de Jérémie, enfin dans les Lamentations de Jérémie, il est dit qu'il est bon pour l'homme d'attendre en secours le silence, dans le silence, le secours de l'Éternel. Eh bien, je peux vous dire que les chrétiens sont exercés à attendre. Et c'est pas un malin plaisir de Dieu de nous faire attendre, c'est que nous ne sommes pas mûrs pour recevoir l'exaucement que nous lui avons demandé. Parce que si, c'est comme un fruit, ça, c'est pareil, hein. Si les choses arrivent, si le fruit est vert, il est pas bon. Si le temps est passé, il est pourri. Mais Dieu veut nous donner le meilleur lorsqu'il est dans le meilleur de sa saveur et de sa maturité. Et c'est ça ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a le temps de la patience. Ah ouais, la patience c'est quelque chose. Soyez patient. Ouais, sachez attendre. Et il y a beaucoup de leçons à prendre. Ça implique notre maîtrise de soi. Et c'est un fruit du caractère. Il y a des hommes et des femmes lorsqu'ils étaient avant de connaître Jésus, parce que aujourd'hui nous portons une image qui est l'exemple et le modèle parfait, c'est Jésus, hein. C'est Jésus. Mais auparavant, nous étions véritablement, pour certains, mais alors colériques et impatients de tout, hein, d'avoir. Et ça, c'est un petit peu ce que nous rencontrons chez nos petits-enfants, vous comprenez? Ils veulent tout, tout de suite. Moi, mon petit-fils, là, que j'ai à la maison, il me disait cette semaine, il dit, papy, moi, c'est moi qui commande ici. Ah! Il est haut comme ça, et il me dit, c'est moi qui commande. Parce que quand il veut les choses, il les veut tout de suite. Eh ben, moi, me dire ça, eh ben, c'est sûr que ça va faire le contraire. Je pense à me... Bon, enfin. Attendre le bon moment, mes frères et sœurs, ça vaut la peine d'attendre, au lieu de se précipiter, de se tromper, le temps favorable. Et ça peut se terminer par une aventure tellement hasardeuse. Je finis bientôt. Mais dans 2 Corinthiens, il est dit « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Au temps favorable, hein. « Au jour du salut, je t'ai secouru. » C'est le temps de Dieu. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est pour vous, mes frères et sœurs, ce matin. Pour vous qui attendez, prenez patience et vous allez voir que vous allez être réjouis des résultats parce que le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Voilà. Je termine avec les voleurs de temps. Pouf. Les voleurs, vous savez que ça existe? Ça existe des voleurs dans le monde autour de nous, les gens qui viennent cambrioler les maisons, hein, qui vous prennent votre voiture, enfin, vous prennent, voilà, toutes sortes de choses. Les voleurs de temps, vous avez une petite idée de ce qu'ils peuvent être dans notre vie moderne? Ah ouais? D'abord, qui sont-ils, ces voleurs de temps? Ces troubles faits, qui viennent nous grignoter, qui viennent nous manger, qui viennent tout simplement, eh bien, nous ravir notre temps de vie. Ouais. D'abord, tout ce qui est télé, phone, vision, et tout ce qui, voilà, tout ce qui se promène autour de nous sans que nous les voyons et qui nous mange. Vous savez qu'il y a des, je crois, les Américains, ils passent jusqu'à 7 à 8 heures devant la télévision. Enfin, elle est allumée, hein. Elle fonctionne comme ça. Comme ça, ça leur fait une petite compagnie, vous comprenez? Moi, c'est pas Jean-Pierre Pernaut qui me tient compagnie, c'est le Seigneur. Voilà. Enfin, je dis ça comme ça au passage, c'est un petit peu, un petit clin d'œil. Ouais. Tout ce qui est écran, vous savez? Tiens, les jeunes, on pourrait peut-être en parler. Des smartphones et tout ça. Moi, quand je suis dans la rue, comme tout un chacun, surtout les filles. Prenez patience. J'ai pas tout dit. Toujours. Alors, branché, c'est pas une catégorie tombée. C'est la jeunesse, hein. J'aurais eu 20 ans. Enfin, j'aurais 20 ans maintenant. C'est peut-être que j'aurais certainement fait la même chose, hein. Mais, on regarde pas, hein. Vous savez qu'il y en a qui se font écraser au passage clouté? Ah non, mais ça va devenir une catastrophe nationale, hein. Alors, toujours branché, toujours à pourquoi des conversations pour se rien dire, pour rien dire? C'est vrai. Mais les garçons, c'est pareil. Bon, je me rattrape au dernier moment, mais bon, c'est pareil. Alors, les écrans. Regardez, le monde de l'automobile. Les voleurs de temps, les bouchons. Oh là là. Vous payez l'autoroute en plus très cher. Et en plus, vous passez 3 heures à attendre pour passer le péage. Bon, ça réjouit naturellement. Il y en a des voleurs de temps, il y en a partout, partout, partout. Et je termine, parce que j'ai dit que je terminais, c'est le moment. Le maître du temps absolu. Voilà, on y arrive. Tout ça pour vous dire toutes ces choses. Hein. Le maître du temps absolu, celui qui est présenté dans la Bible comme le Dieu de l'éternité. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Qu'est-ce que il répond? Dieu répond à Moïse dans le buisson ardent. Je suis celui qui suis, qui a donné, dans la traduction de Louis II biblique, qui a donné l'éternel. Nous, nous sommes temporels. Et lui, il est l'éternel. Je suis celui qui suis. Quand on voit même Jésus, sa préexistence, quand les Juifs viendront voir Jésus en disant, mais qui es-tu, toi? Et il dira, mais avant que Moïse soit, je suis. Eh ben, allez comprendre quelque chose. Enfin, nous, moi, je pense l'avoir compris. Mais c'est pour dire que Jésus, c'est Dieu. Voilà. Il a l'éternité de Dieu. Et c'est lui qui nous appelle à rentrer dans cette autre dimension spirituelle, qui est la découverte de ce Dieu qui est le maître du temps absolu. Et dans le livre de Daniel, il y a une belle parole que j'aimerais relire. Daniel le prophète, hein, naturellement, hein. Daniel chapitre 2. Et au verset 21, il est dit ceci. C'est lui, Daniel dit en parlant de Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, dira Daniel, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, les secrets du roi. Voilà. C'est une belle histoire, le livre de Daniel, hein. C'est à lire parce que c'est un livre pour notre temps. C'est un livre prophétique qui nous parle des temps d'aujourd'hui. Et qui nous introduit déjà dans cette révélation que l'on appelle l'Apocalypse. Et comme on le disait hier soir avec les jeunes, l'Apocalypse, c'est pas la terreur, c'est pas quelque chose de terrible. Pour ceux qui sont incrédules, oui. Mais pour les chrétiens, c'est une formidable lumière d'espérance pour chacun d'entre nous. Jésus revient. Jésus revient, il revient bientôt. Et il revient pour donner au monde un bouleversement dans toute l'histoire de l'humanité. Oui, il est le maître du temps absolu. Et je crois que dans le livre de l'Ecclésiaste, si je me souviens spontanément, il est dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître de votre temps, il est le maître de vos circonstances, il est le maître absolu de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement terminer en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as rappelé ce matin toutes les déclinaisons du temps. Oui, Seigneur, ces formes, ces séquences, à travers, Père éternel, notre vie, parce que nous ne sommes que des hommes et nous nous sommes renfermés entre une naissance et puis le jour où nous partirons. Nous sommes renfermés, Seigneur, et nous sommes des êtres finis. Toi, tu es le Dieu de l'infini et tu nous invites à rentrer dans cet infini. Parce que lorsque nous perdrons, en effet, Père éternel, cette enveloppe charnelle, eh bien, il subsistera l'âme et l'esprit dans une dimension que nous ne pouvons que, en effet, insoupçonner peut-être, mais une chose dont la parole nous dit qu'il y a un espoir, qu'il y a une espérance, et que cette espérance, que cette nouvelle réalité invisible pour nous aujourd'hui devient visible, et ce sera, Seigneur, en effet, eh bien, une dimension éternelle. Nous avons du mal à saisir le sens de tout cela, mais une chose qui est certaine, c'est que nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, d'avoir donné Jésus qui est venu sur la terre, qui s'est recouvert, qui s'est, en effet, eh bien, qui a pris le temps, qui s'est mis dans l'histoire du temps de l'humanité des hommes pour leur dire, tout simplement, qu'il était le chemin pour aller vers cette éternité, qu'il était la vérité, qu'il ne nous disait pas de mensonges, et qu'il était la vie et la vie éternelle. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis mes frères et sœurs, et donne-nous de faire un bon usage du temps. Donne-nous de bien compter nos jours, Seigneur. Donne-nous de vivre bien, de vivre, Père éternel, en paix, de vivre dans la joie, de vivre avec toutes les ressources de ton esprit, Seigneur, à l'intérieur de nous-mêmes, et donne-nous la sagesse pour cela. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.